Voilà. Alors, vous avez le plan, c'est notre avant-dernier cours. C'est triste, mais bon, il faut bien qu'on finisse un jour. Bon, on pourrait faire durer encore. Vous allez voir ce soir, je ne vais prendre que quelques aspects du chapitre que j'ai préparé sur le Sauveur, le chapitre 6. Et le chapitre 7, ce sera sur le Notre Père. Bon, donc, c'est des domaines un peu plus connu, hein. Aujourd'hui, on va aborder un aspect qui est assez peu connu, du moins de la part du chrétien de base, si j'ose dire, puisque on va s'attarder d'abord une bonne moitié du cours de ce soir sur les hymnes christologiques. Qu'est-ce que c'est que ces hymnes christologiques? Ben, dans les lettres de saint Paul, il y a de temps en temps des morceaux de poésie dont on est sûr qu'ils ne sont pas de saint Paul. Et vous en connaissez évidemment. Vous connaissez certainement la première lettre des Corinthiens au chapitre 12 et 13. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'hymne à l'amour. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, etc. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis que cymbale retentissante. Ça, c'est un poème qui n'est probablement pas de saint Paul. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants pour nous que l'hymne à l'amour que je viens de vous citer, qui sont des hymnes christologiques, c'est-à-dire avec une très forte densité de théologie christologique. Donc c'est ça que nous allons voir. Après, nous irons faire deux petites, plus brèves promenades. Avec à nouveau un retour à l'iconologie sur le baptême du Christ et les tentations du Christ. Et puis je finirai, si j'ai le temps, sur le salut de la matière. Mais ça, bon, si j'ai pas le temps, c'est également je le reprends pour le tout dernier cours du parcours complet du CIF, donc en seconde année, pour conclure le troisième trimestre. C'est moi qui donne le dernier cours. Et c'est un cours qui s'appelle Liturgie cosmique. Bon, donc, si je n'ai pas le temps de faire le quatrième point, mais je vais quand même m'efforcer, bien sûr. Alors, allons-y avec les hymnes christologiques. Il y en a trois que je vous liste ici: Philippiens, Colossiens, Éphésiens. Éphésiens, je l'ai mis entre parenthèses parce que je ne vais pas le traiter. Il ressemble. Enfin, il ressemble. C'est le développement de Colossiens. Donc ça nous fera gagner un peu de temps, je le cite pour mémoire, mais on se contentera aujourd'hui d'étudier Philippiens et Colossiens. C'est quoi le statut de ces hymnes? Eh bien, ce sont des hymnes liturgiques. C'est pour ça que ça s'appelle des hymnes. D'abord, on voit bien qu'ils ont un rythme poétique, parfois des styles d'écriture, vous allez le voir, hein, on va repérer ça assez vite, des styles d'écriture sémitiques. Vous savez, c'est le travail qu'on avait fait avec le prologue de Jean. Donc un procédé, si vous voulez, très hébraïque, presque de la poésie hébraïque, avec des répétitions, des chiasmes. Vous savez, ce que j'avais mis en forme de poupée russe, ce que j'avais mis également en forme de tresse. Il y a des mots plus savants, hein, pour dire ça. Mais enfin, c'est des images pour dire un peu ce style très noué des poèmes hébraïques. Si c'est des poèmes hébraïques, c'est probablement parce que ils étaient chantés dans la liturgie. Mais nous les avons en grec. Et aujourd'hui en français, bien sûr. Et donc on a perdu un des aspects majeurs de la poésie hébraïque, ce que sont les assonances. C'est-à-dire, vous savez, les majeurs de voyelles sur des groupes de versets. Bon, ça, évidemment, la traduction le perd complètement. Les hymnes que je vous ai cités, y compris 1 Corinthiens 13, étaient probablement des textes qui ont été importés par saint Paul. Peut-être corrigés par saint Paul, il les insère dans ses lettres, d'abord parce que c'est des textes probablement connus, probablement étaient-ce des hymnes liturgiques qu'on utilisait non plus à la synagogue, mais dans les premières réunions des chrétiens, dans la toute première communauté chrétienne. Et Ce qui est sûr, c'est que saint Paul les trouve bien à propos pour illustrer ce qu'il veut dire dans ses lettres Éphésiens, Colossiens, Corinthiens, etc. Alors, ce dont on n'est absolument pas sûr, hein, enfin, on est sûr que ce n'est pas lui qui les a écrites, mais on n'est absolument pas sûr du degré de correction qu'il y apporte. Parce que vous allez voir, c'est quand même assez solide du point de vue de la théologie. Donc on s'en étonne un peu, c'est très proche de la pensée de saint Paul. C'est pas un poème liturgique, vous voyez, comme on entend dans nos églises, hein. Je dis un mot tout d'abord du contexte de ces lettres. Mais bon, ça, vous le verrez beaucoup avec Roselyne Dupont-Roc dans les années qui suivent. Si vous faites la suite du CIF avec les groupes bibliques, etc. Puis même, il y a des journées, vous savez, dans le parcours d'initiation avec Roselyne Dupont-Roc. Mais comme vous le savez, saint Paul a beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen pour fonder des petites églises. Et ensuite, il fait un second voyage, puis un troisième, et enfin un quatrième, pour visiter. D'abord, il visite ses noyaux d'église, et puis il fonde quelques nouvelles églises. Et donc, souvent, ces voyages suscitent des réactions très vives des Juifs, ce qui provoquait assez souvent un désordre notoire. C'est la raison pour laquelle Paul s'est retrouvé trois fois en prison. Il était emprisonné à la suite d'émeutes ou de dénonciations parce qu'on craignait que ce soit un fauteur de troubles. Et donc, il écrit de prison, on en est à peu près sûr parce qu'il le dit lui-même, à Césarée, en 59. Il a été prisonnier à Éphèse, en 56. Et puis, il a été prisonnier à Rome, 2 ans, de 60 à 62, et c'est là qu'il a été exécuté. Et donc, il écrit de ces prisons. Il écrit ses lettres et il les envoie. Nos lettres sont écrites en prison, Colossiens et Éphésiens, depuis Rome, donc quelques années avant qu'il ne meure. Philippiens est une épître qu'il écrit un peu avant et 1 Corinthiens est une épître qu'il écrit très tôt. Donc voilà pour le contexte. Nous allons aborder donc la première épître. Je vous ai laissé sur la plateforme, sur le site, une feuille. Alors si vous l'avez imprimée, c'est très bien. Sinon, vous la retrouverez. Où je donne une traduction, la traduction que j'ai choisie pour ces lettres. Mais c'est bien d'avoir le texte sous les yeux, parce que vous allez voir, c'est quand même assez dense. Si vous l'avez sous les yeux, ça vous permet également de prendre des notes directement sur le texte. Donc commençons avec Philippiens. Philippe, l'église de Philippe, est la première communauté à s'être formée à partir d'Antioche. Saint Paul y est particulièrement attaché. Alors pourquoi je dis à partir d'Antioche? Ça, c'est des détails d'exégèse, mais ça vaut la peine de savoir. C'est parce que les missions vers le bassin méditerranéen ne sont pas parties de Jérusalem, mais d'Antioche, où il y avait une communauté assez vive, assez ardente, où il y avait Luc, probablement. Et c'est là, nous disent les Actes des Apôtres, que les chrétiens, pour la première fois, ont porté ce titre de chrétien, et non pas de disciples ou de disciples de la voie, mais de chrétiens, c'est-à-dire qui suivent le Christ. Et donc j'ai mis une flèche rouge là parce que c'est à partir d'Antioche que ces missions sont lancées. D'abord Paul et Barnabé, puis ensuite Paul et Marc, et ensuite Paul tout seul. Donc voilà pour le contexte géographique. Alors, il est particulièrement attaché à la communauté de Philippe pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que c'est une des premières communautés qu'il a fondée, et puis parce qu'il a confié cette communauté à deux femmes. Vous savez que saint Paul reste très peu dans les communautés qu'ils fondent, à Lydie, à Derbé, Iconium, Antioche, de Pisidie, etc. Il y reste très peu de temps. Et donc, ils confient très souvent les communautés, maigres communautés au début, hein, peut-être 30 personnes, peut-être 100. Il les confie à ceux que bientôt nous allons appeler des épiscopes. Et figurez-vous que à Philippe, il le confie à deux femmes, à Lydie et une autre femme. Alors, on ne dit pas qu'elles aient été épiscopes, mais la communauté leur est confiée. Donc, Paul est très attaché, et il est d'autant plus attaché à cette communauté que, on en a une preuve étonnante. C'est que c'est de cette seule communauté de Philippe qu'il accepte une aide financière. Ça, c'est assez curieux, hein. Saint Paul a toujours voulu travailler de ses mains. Il le dit dans ses apôtres, dans ses épîtres. Il dit: « Je n'ai voulu être dépendant de personne. » Et donc, il trouvait toujours un job, parce qu'il fabriquait des toiles. Il cousait des toiles, il fabriquait soit des toiles de tente, soit des voiles pour les bateaux. Et donc, il trouvait à s'employer, il travaillait de ses mains. Mais les choses s'accélèrent petit à petit. Il a été de plus en plus pris par ses voyages, et il a fallu qu'il reçoive des aides. Eh bien, la seule communauté dont il accepte des aides pour lui, parce qu'il se chargeait également de distribuer des aides pour les églises qu'il visitait. Donc, si vous voulez, il était transporteur de fonds en même temps. Mais les seules aides qu'il acceptait pour lui venaient de l'église de Philippe. Donc voilà, vous voyez, on a plusieurs marqueurs comme ça qui nous disent son attachement. Nous sommes en 53. C'est donc après les lettres à Thessalonique, qui sont les premières lettres du Nouveau Testament, après les lettres aux Corinthiens. Et voici ce qui reste de la ville aujourd'hui. Donc, c'était une belle ville de structure gréco-romaine, avec, ici, vous voyez, le forum, avec un cardo, enfin, il y avait un temple, etc. Et puis, une toute petite communauté juive et une toute petite communauté chrétienne. Et donc, il leur écrit une lettre. Et ces lettres, comme vous le savez, c'était des lettres circulaires. C'est-à-dire, on allait ensuite les copier et les envoyer. Et ça circulait beaucoup. Et il y a plusieurs copies de ces lettres qui ont beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire, on dit épître aux Philippiens, mais en fait, tout le monde en a assez vite profité. Alors, allons-y, je vous montre le texte, mais vous l'avez également en papier. Je vous lis une première fois et je vais vous donner quelques repères. On ne va pas y passer énormément de temps, hein, mais il faut quand même. Parce que c'est de la christologie, c'est très intéressant. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et sous terre, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. C'est un texte que vous connaissez, vous l'avez déjà entendu dans la liturgie, il revient. Il fait même souvent l'objet de chants. Dans cette mise en page que vous avez sous les yeux, nous voyons très bien le schéma. La gloire première, lui qui était de condition divine, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu. Une gloire première et une gloire finale. Vous avez donc deux grandes parties. La gloire finale, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Afin que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, gloire d'origine, gloire de destinée, pourrait-on dire. Donc, c'est assez facile à repérer. On repère, vous verrez, je vais parler de cette gloire restituée qui est en quelque sorte amplifiée, augmentée par la louange cosmique. Alors, on va aller voir tout de suite la dernière partie sur laquelle je vais faire un gros plan. Donc, le deuxième cercle rouge, là, la dernière partie, la troisième, si vous voulez. Il y en a deux qui encadrent un cœur. On va aller voir la dernière, je vais faire un gros plan sur celle-ci. Le voilà, c'est le même texte. Et là, j'ai mis mes repères colorés, donc c'est assez facile. Vous repérez, on a déjà vu ça, un procédé hébraïque qu'on a déjà vu dans, par exemple, le prologue de Jean. C'est un chiasme. Vous savez ce que j'avais appelé les poupées russes. Et alors, tout à l'instant, je viens de vous dire que c'était une gloire augmentée, c'est-à-dire un retour au Père, mais augmentée d'une louange cosmique. Et en effet, c'est au centre. Afin que tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, sous terre, et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, vous voyez, la gloire, c'est ce que j'ai mis en rouge, le nom de Jésus en vert, la manière de rendre grâce en fluo, là, et au cœur, cette espèce de participation cosmique de toute chose. C'est assez impressionnant hein, de voir qu'il y a là une pensée, alors je vais y revenir plusieurs fois dans ces hymnes, une pensée du Christ total. Voilà ce qu'on appelle le plérone. Le Christ total, c'est quoi? C'est celui qui vient tout rapporter à lui. À tout, ça veut dire les hommes, les choses, la matière, le cosmos, les arbres, le climat, les lunes, etc. Je vous donne quelques autres repères qui vous rappellent les procédés hébraïques. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, au ciel, sur terre, sous terre, Jésus, Christ, Seigneur, la gloire de Dieu le Père, etc. Vous voyez, vous avez des répétitions comme ça, des cadences que vous avez déjà repérées quand nous avons proposé le même type d'analyse avec le prologue, vous vous souvenez. Cette histoire du plérone du Christ, le Christ total, est quelque chose qui a toujours frappé l'Église dans ses commencements, jusqu'à pratiquement notre XIIe siècle. Et chez les Byzantins, ça n'a jamais quitté l'iconographie. C'est ce qu'on appelle les Christ pantocrator. Pantocrator, ça veut dire qui règne sur tout. Panto. Pantocrator, ce qui règne sur toute chose. Et donc, toute chose, ça veut dire qu'il vient, en quelque sorte, il vient christifier. C'est-à-dire, il vient habiter de sa présence toute chose, même le cosmos. Alors, évidemment, ça, c'est des choses très impressionnantes à bien penser. On va tourner autour de ce sujet, vous allez voir, avec les deux hymnes que nous allons voir. Ça veut dire qu'il a pénétré tout ce que le Logos a créé et il veut réordonner tout ce qui a été créé, c'est-à-dire tout ce qui a été pénétré du Verbe éternel, il veut le réordonner à sa vocation première, à savoir chanter la louange de Dieu, exprimer quelque chose du Créateur sous forme de beauté, sous forme de louange. Voilà ce que la création tout entière fait ou devrait faire. Nous compris. Et donc, c'est ça que le Christ vient restaurer, parce que ça s'est dégradé. Et donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'expression tout genou fléchisse, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Entre ces deux gloires, hein, la première, celle, si vous voulez, intra-trinitaire, et celle du Christ qui vient tout récapituler, eh bien, nous avons ce carré au milieu, qui est l'incarnation. C'est une méditation, en fait. Toute cet hymne est une méditation sur pourquoi Dieu s'est-il fait homme. Autrement dit, pourquoi le Christ? C'est pour ça qu'on appelle ça une hymne christologique. Et là, l'angle d'attaque pour comprendre le Christ, c'est l'incarnation. Mais alors, Cette incarnation est dite dans des termes un peu étranges qu'il faut quand même, pour bien comprendre, qu'il faut expliquer. Autant d'un mot tout en haut, et il y a le mot harpomone, ça veut dire il ne s'est pas accroché, il ne retint pas jalousement. On nous dit que le fils n'a pas une espèce c'est ça, d'accroche, de fixation. Dans sa stature de Dieu, tout-puissant créateur. Autant les verbes ici, donc c'est tout en haut, le cercle rouge, c'est un verbe qu'on pourrait dire de station. Et ici, dans le carré vert, tous les verbes disent le déplacement, le mouvement, le devenir, la dynamique, prenant la condition, devenant. Avec évidemment deux verbes en pointe qui vont faire problème. Alors, je vous les explique. Le verbe il s'est anéanti, il s'est abaissé. Anéanti traduit mal le grec, parce que pour nous, aujourd'hui, anéanti, ça veut dire réduire à rien, réduire au néant. Alors que en grec, le mot c'est ekonosen, enfin peu importe, ekonosen en grec, d'où vient l'expression kénose. Kénose, vous avez probablement entendu parler. La kénose du Christ, c'est l'incarnation du Christ. Donc ekonosen, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus exactement, non pas anéantir, mais ça veut dire se déverser, se vider, s'offrir. Ouais, dans ce sens-là, hein, dans le sens déversement, dans le sens on se donne avec abondance. Et c'est un peu pour contredire l'idée qu'il y a en haut, le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement. Il aurait pu s'accrocher. Eh bien non, il ne s'est pas accroché, il s'est dévidé, il s'est absolument donné. Alors, vous voyez, le terme anéantir, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Non, non, Dieu ne s'anéantit pas quand il rentre dans le genre humain. Quand il se fait Dieu, Dieu ne se fait pas rien, car le genre humain n'est pas rien. Vous voyez, c'est donc le verbe anéanti est une mauvaise traduction. C'est une traduction de dictionnaire. C'est vrai que habituellement, on traduit éconocène par anéantir. Par exemple, on anéantit une ville, c'est-à-dire qu'on la rase. Mais non, là, c'est pas ça que ça veut dire. Bon, voilà, vous voyez. Bon, donc, maintenant, avec cette clé, on comprend mieux. On comprend mieux qu'il n'est pas. Parce que si vous mettez l'accent sur anéantir au sens détruire, alors vous pensez immédiatement non pas à l'incarnation, mais à la mort sur la croix. Et voilà, dont je vous ai expliqué déjà plusieurs fois qu'elle n'était évidemment pas le tout du salut. Le tout du salut, c'est que Jésus donne sa vie, pas uniquement sa mort. Voilà, bon, donc, vous voyez, le verbe s'est anéanti est assez important. Et donc, il y a un autre mot qui est un peu embarrassant, c'est il s'est abaissé devenant obéissant. Vous voyez que les traductions sont bizarres. On a des bizarreries dans le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et ça paraît, pardonnez-moi l'expression, un peu pervers. Et il fallait qu'il s'humilie, il fallait qu'il souffre. Et c'est ça qu'il apprend l'obéissance. On l'a entendu dimanche dernier, la seconde lecture. Il a appris par les souffrances de la croix, l'obéissance. Alors là, oh là là. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Obéir, c'est pareil, c'est pas obéir comme, je sais pas, un esclave obéit à son maître, ou un enfant est obéissant, il est sage et obéissant. Ça veut pas dire ça. Le verbe obéir ici veut dire se conformer, c'est-à-dire être cohérent jusqu'au bout. Et donc, voilà l'image qui convient. C'est plus celle du lavement des pieds que celle de la crucifixion. Cohérent jusqu'au bout. Et donc, Il est devenu obéissant, il s'est abaissé, devenant obéissant, on pourrait dire, il s'est abaissé, cohérent jusqu'à la mort. Voilà, c'est ça comme ça qu'il faut le comprendre. Il s'est abaissé, c'est-à-dire, oui, il s'est fait homme. Et il s'est fait homme entièrement cohérent, c'est-à-dire, il n'a pas voulu échapper à ce qui semble marquer radicalement notre existence humaine, la mort. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre cet hymne. Alors, je résume, vous voyez, deux fois, je ferai ça, hein, en un mot, j'essaie de dire quel est le sens de l'hymne. Et donc celle-ci, vous voyez, je dis, bah, Dieu plonge en l'humanité pour tout glorifier en lui. Mais il plonge vraiment, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça, il est cohérent. Obéissant, si vous voulez. Obéissant à quoi? À ce premier projet. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu obéissant. Vous voyez, comme si c'était un enfant rebelle à qui il fallait qu'on apprenne l'obéissance jusqu'à la mort. Enfin, vous voyez, c'est le problème de notre lexique contemporain, hein, c'est qu'il est très apte à la perversion. Parce qu'il est très chargé d'histoire, et d'histoire un peu pourrie parfois, hein, avec des psychologies fracassées. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre cet hymne, qui est une méditation sur le Christ partageant la gloire du Père, qui plonge entièrement et vraiment dans l'humanité, donc il devient vraiment homme. Pourquoi? Bah pour tout glorifier, pour tout rapporter à lui. Le cosmos y compris, dans la dernière partie. Bon, voilà pour la première hymne. On va passer maintenant à la seconde, Colossiens. Colossiens est donc écrit à partir de Rome en 60. C'est une église, l'église de Colosse, que Paul n'a ni fondée, ni visitée. C'est un disciple qu'on ne connaît que par ça, qui s'appelle Epaphras, qui est le fondateur de cette église. Alors je vous mets ici, hein, je fais toujours partir la flèche d'Antioche, Antioche de Syrie, et un autre Antioche, hein, en Pisidie, vous voyez, au centre du plateau anatolien. Ouais, vous voyez là une Antioche Alors c'est Antioche de Syrie, hein, où il y avait la première communauté chrétienne, et donc Colosse, vous voyez où c'est. C'est en plein milieu de la Turquie actuelle, un peu au sud, dans une région montagneuse magnifique, avec des lacs. Enfin, c'est très intéressant. Donc c'est là, c'est une petite communauté donc qu'il n'a pas fondée, qui n'a pas été visitée, mais qu'il connaît. Et donc, il leur écrit un courrier. Alors c'est pareil, hein, c'est une hymne très poétique, mais donc, je répète, hein, Saint Paul l'a probablement arrangé, peut-être amplifié, pour l'introduire dans sa lettre globale, qui, elle, est très trapue en théologie. Et vous aurez l'hymne également assez intéressante, assez dense, assez facile à comprendre, je crois aussi, dès qu'on a les clés. Alors, je vais vous les donner. Là aussi, c'est un texte que vous connaissez probablement, parce qu'on l'entend, mais généralement, les prédicateurs renoncent à expliquer et la précédente et celle-ci, hein, parce que c'est un peu difficile. Et puis il faut faire des dessins comme je fais. Alors lors d'une homélie, c'est pas si simple à expliquer. Alors allons-y. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, sujet connu. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, tout subsiste en lui. Thème majeur, hein. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude. Et que tout par le Christ soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Ah, vous avez repéré des choses hein, qu'on a déjà vues. Sur la terre, dans le ciel, répété deux fois. Dans la première strophe, dans la seconde, il y a deux strophes très clairement distinctes. Hein. On peut les distinguer sans erreur. La première est un développement du logos créateur, donc c'est la création. Et la seconde, c'est la réconciliation de tout ce qui fut créé. Alors, on va voir de quoi il s'agit, c'est quoi cette réconciliation. Alors, pareil, je vais vous donner des petits équipements colorés, mais vous pourriez le faire. Si on avait le temps, on pourrait le faire, je pourrais vous le faire faire, vous voyez, et partager vos remarques, mais vous voyez bien, hein, vous voyez bien des choses qui sont répétées en haut, en bas, dans le ciel, sur la terre. Il y a des thèmes pour lui, par lui, avec lui. Enfin bon, on repère tout ça. Alors, les voilà, les petits signaux, hein. Il y a une phrase qui est très intéressante. Le Christ, premier-né avant toute créature. Alors, le credo n'utilisera pas le mot créé, hein, mais le credo dira engendré. Bon, ben c'est très proche. Le premier-né avant toute créature. Et puis en bas, le premier-né d'entre les morts. Ah, ça c'est intéressant, hein, c'est. Et puis, c'est donc d'entre les morts, il s'agit des mortels, de nous, quoi, des hommes. C'est donc bien lui, le Fils éternel, le premier-né avant toute créature ou avant tous les siècles, dit-on aujourd'hui. Évidentes aussi sont les répétitions de ce qui exprime la totalité. C'est un mot qui revient 9 fois dans l'hymne. Avant toute créature, en lui tout fut créé, tout est créé par lui et pour lui, toute chose, tout subsiste, etc. Et il y a vraiment là l'idée de ce qu'on appelle le pléron, la totalité, le pantocrator, tout. C'est bien de cela dont il est question ici, que j'ai mis en bleu, avec cette énumération un peu étrange, visible et invisible, on voit à peu près, si j'ose dire, de quoi on parle, mais par contre, il y a puissance, principauté, souveraineté, domination. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont les forces qui font tourner le monde. Et puissance, principauté, souveraineté, domination sont disons, des énergies divines, comme diraient les Byzantins. Alors, ça ne nous éclaire pas beaucoup. Disons que ce sont les forces qui font tourner le monde, les lois éternelles, là. On les appelait comme ça au 15e, 16e siècle. Les philosophes appelaient ça les lois éternelles. Tout ça a été créé dans le Fils, par lui et pour lui. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui le créateur, mais c'est vers lui que toutes choses tendent. Voilà, donc c'est dans la première strophe, il est question des choses. Et dans la seconde strophe, il est question des êtres humains. Qui sont introduits à cette totalité réconciliée, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté, ça veut dire que le Christ ressuscité prend la tête de tout ce qui va suivre, le premier-né d'entre les mortels. Ensuite viendra le cortège de tous les hommes participant à sa résurrection. Vous notez également dans la seconde partie, la participation du cosmos entier, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Et donc là, on comprend que c'est plus que les êtres vivants humains. C'est même plus que les vivants en général. C'est la création tout entière. C'est encore cosmique, hein, ce qu'on avait vu dans la première hymne. Je signale aussi ces répétitions en rouge, hein, par lui, en lui, pour lui. Voilà, c'est ce qu'on trouve, vous savez, à la fin de la liturgie eucharistique, à la fin du canon eucharistique, par lui, avec lui et en lui. Et bien voilà, c'est un emprunt à cette répétition qu'on trouve dans les hymnes christologiques de Saint-Paul, par lui, en lui, avec lui, pour lui, etc. Et sans cesse, ce lexique paulinien qui revient constamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ est vraiment le Verbe éternel qui crée le monde. Le monde est donc pénétré d'une vocation. La vocation, c'est quoi? La vocation du monde, de tout ce qui a été créé, eh bien, c'est de chanter les louanges de Dieu. C'est en quelque sorte, si vous voulez, le créer a comme mission, comme vocation, de montrer, de déployer Dieu. Sauf que ça a été dévoyé. Et on s'est un peu enlisé. Et qu'est-ce que vient faire le Christ? Il vient restaurer cette vocation et en l'homme et dans le cosmos. Voilà, c'est une vision assez, assez extraordinaire. Et donc, pour conclure cette seconde hymne, je propose ça, vous voyez, comme récapitulatif un peu rapide, comme mot-clé en tout cas, avec cette image, vous voyez, d'un ciel baroque. C'est-à-dire, c'est un plafond d'une église. Et donc, ce plafond d'église ne ferme pas l'église, la communauté sur elle, mais l'ouvre sur le ciel. Alors, sur le ciel tout entier, vous voyez, ça s'ouvre. Ce n'est pas que le ciel des anges, c'est le monde entier qui monte vers son point oméga. Et on peut presque parler comme Théard de Chardin. Et donc, j'ai mis comme mot le premier-né, il est la tête du corps et le pléone. Alors, la tête du corps, il faut dire un mot, je reviens une image en arrière, et c'est verset 18. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Alors, ça, c'est un truc très paulinien. Paul, et c'est lui hein, qui a donné cette théologie à l'Église, Paul pense l'Église d'abord comme le corps du Christ. Il compare l'Église à un corps, ça vous le savez. Il y a plusieurs récurrences hein, chez Saint Paul où il dit, nous allons prendre une comparaison. Le petit doigt peut pas dire à l'oreille, j'ai pas besoin de toi. Ainsi est-il des charismes dans l'Église. Bon, ça c'est une image. Mais d'autres fois, il dit clairement que l'Église est le corps du Christ. Et donc ça, c'est quelque chose qui va rester hein, dans notre... L'Église n'est pas d'abord la hiérarchie. Mais l'Église est d'abord le corps du Christ. Et donc nous sommes membres tous du corps du Christ. Et alors là, pour le coup, en dehors de toute forme structurelle, hiérarchique et compagnie, chacun est membre de ce corps du Christ. Et c'est la raison pour laquelle, ça je vous le signale au passage, c'est très intéressant, que l'art baroque ouvrira ses voûtes. Non pas au-dessus du sanctuaire, mais au-dessus de l'assemblée. Parce que c'est nous, le corps du Christ. Et donc, vous voyez, à l'art baroque, celui du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a un retour évident à une théologie ecclésiale, si vous voulez, en termes savants, une ecclésiologie qui sort du seul cléricalisme. Et ça, c'est visible dans les formes architecturales baroques du XVIIIe siècle. C'est pour ça que moi je dis souvent que le baroque, c'est le retour de la théologie. Parce qu'elle a été perdue en gros dans les formes esthétiques hein, à la fin du XIIIe siècle. XIVe, XVe, XVIe, début du XVIIe, il y a pas beaucoup de théologie dans les formes esthétiques. Mais ça revient dans les formes architecturales. Donc voilà pour ces deux hymnes. Avez-vous des questions sur ces deux hymnes avant qu'on passe à vraiment autre chose? Ça vous laisse quoi? Bon, bah, écoutez, on peut continuer, hein. Donc, le point suivant que je vous propose, c'est une réflexion sur le baptême du Christ. Baptême du Christ, tentation du Christ. Les deux sont très proches dans vos évangiles. Et tous les deux disent beaucoup sur la christologie. On va commencer par le baptême du Christ. Et là, bien évidemment, notre compréhension du baptême chrétien nous égare quand on parle improprement du baptême du Christ. On n'a pas trouvé d'autre expression que ce mot baptême, mais ce n'est pas vraiment un baptême. Vous voyez, quand nous, on parle du baptême, on baptise des enfants dans la mort et la résurrection du Christ. Et donc, ce que lui connaît, ce n'est pas vraiment un baptême, c'est autre chose. Le baptême chrétien ressemble au baptême du Christ, et de loin. Alors, on va voir ça. Comment faut-il comprendre le baptême du Christ? Qu'est-ce que c'est? Alors, les Byzantins, eux, ils utilisent trois mots, moi, qui ne nous aident pas beaucoup. Ils disent c'est une hiérophanie, c'est une épiphanie, et c'est une théophanie. Alors, ces termes, ça veut dire quoi? Hiérophanie, bah, c'est la manifestation du sacré, du redoutable. Épiphanie, bah, c'est la manifestation de ce qui est au-dessus, de la transcendance, si vous voulez. Et théophanie, le mot qui convient mieux, c'est une manifestation de Dieu comme Dieu. Et donc, ce n'est pas un baptême. Jésus n'a pas besoin de recevoir le baptême. Ah, oui, ça pose bien des questions. Il n'a pas besoin d'être purifié de quoi que ce soit. Bah, il n'a pas besoin d'être lavé du péché originel, comme on dit, etc. Oui. Alors, allons-y pour l'expliquer, le baptême du Christ, il faut d'abord expliquer Jean-Baptiste. Alors, c'est pareil, Jean-Baptiste ne s'appelle pas Jean-Baptiste, il s'appelle Jean. Et il a été surnommé le plongeur, c'est-à-dire celui qui fait plonger, que nous avons traduit ensuite. Parce que nous avions des baptêmes, nous les chrétiens, que nous avons traduit ensuite par Jean le Baptiste. Mais Jean n'a jamais baptisé personne. Je veux dire, baptisé comme nous entendons un baptême. Il les plongeait dans l'eau. Alors, il faut expliquer. Que fait-il, Jean-Baptiste, et qu'est-ce qui lui prend de faire ce geste? Ben, Jean-Baptiste est d'une famille sacerdotale. Son père dessert le temple de Jérusalem. Et quand c'est son tour, il monte à Jérusalem et il rentre dans le saint, c'est-à-dire la première partie du temple, pour y opérer des sacrifices d'encens. Son père s'appelle Zacharie. On le connaît dans l'évangile de Luc. Il est donc d'une famille sacerdotale, c'est-à-dire lévitique. C'est la tribu de Lévi. Tous les membres de la tribu de Lévi sont consacrés à l'autel et au culte. Donc Jean-Baptiste naît, vit, est instruit dans l'idée qu'il sera lui-même lévite. Et donc il connaît très bien les usages religieux et leur sens, ou même leur perte de sens. Aussi procède-t-il à une amplification, ou plus exactement, à une réforme d'un rituel juif très connu, que sont les bains. Les Juifs aiment beaucoup les bains, pas pour des raisons sanitaires, ni pour se rafraîchir, mais ce sont des bains rituels. Toutes les bonnes familles, un peu riches, ont chez eux un mikvé. C'est quoi un mikvé? Ben, c'est un bain. Ça ressemble à une baignoire, ou plus exactement une fosse remplie d'eau, assez peu profonde, et sans cesse, sans cesse, sans cesse, les Juifs vont s'y tremper. Alors, ce rituel du bain, des mikvé, s'est considérablement amplifié avec le temps. Au début, le mikvé était réservé, c'est-à-dire le bain rituel, était réservé pour une type de faute, une type de purification, un seul type de purification. Et du coup, on comprend un peu le bain. C'était tout ce qui était perte de sang. Alors, c'est intéressant. Parce que perte de sang, vous savez que le sang chez les Juifs, c'est la vie. Donc, on n'a pas le droit de le perdre. Perdre du sang, répandre du sang, c'est, en quelque sorte, toucher à la vie même. Par exemple, vous savez bien que les femmes, le cycle menstruel des femmes crée pour les femmes une impureté rituelle. Et donc, elle va falloir qu'elle procède à une ablution, un mikvé, un bain. Ou bien un homme qui soigne les gens et qui touche du sang doit se purifier. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, le bon samaritain, le prêtre qui se détourne, ben c'est parce que s'il touche un corps tuméfié, qui a une blessure ou une blessure qui saigne, il contracte une impureté rituelle et il ne pourra donc pas officier au temple. Vous voyez le truc, hein? Bon, ça, vous connaissez ça. Et donc, les mikvé, ça sert à ça à l'origine. Ce sont des ablutions pour les rites concernant le sang. Sauf que ça a pris une inflation incroyable. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est mis à dire que toute désobéissance aux prescriptions de l'Ancien Testament méritait purification. Or, il y en a 613. Eh ben, on passe son temps à se baigner. Il y a 613 prescriptions. Et si ne pas appliquer, ne pas vivre une des prescriptions, c'est contracter une impureté, alors on est toujours impur. C'est ce qu'essaye de nous faire croire, notez ça en bas de page, un certain nombre de prêtres aujourd'hui. Après les discours du XVIIe, XVIIIe siècle. Nous sommes évidemment pécheurs. Cherchez bien, vous avez commis des péchés. Eh bien, les Juifs, avant nous, avaient eu cette inflation-là. Et les Esséniens ont gueulé contre ça. En disant, mais... Alors, ceci dit, les Esséniens avaient beaucoup de bains aussi, hein. Ils étaient dans la mode du temps. Ils avaient beaucoup de rituels de purification. Mais ils se sont dit... Il est plus vrai encore de convertir sa vie, bien plus que d'être obsédé par la pureté ou d'être inquiété par l'impureté. L'essentiel de la vie religieuse, c'est de convertir sa vie. Alors c'est pourquoi les Esséniens ont été très loin, ils ont été vivre dans le désert, avec une certaine rusticité d'existence, une vie communautaire, presque des moines, si vous voulez. Or, Jean-Baptiste était probablement, il a fait un stage chez les Esséniens. Et lui, Jean-Baptiste, il va plus loin. Hein, parce que ce qu'il propose, c'est une conversion existentielle. Et en fait, ce qui est très intéressant, hein, c'est de se rendre compte quand vous lisez les trois récits évangéliques, parce que Marc n'en parle quasiment pas. Mais si vous lisez Jean, Matthieu, Luc, on nous dit à chaque fois que les gens venaient nombreux à Jean-Baptiste. C'est-à-dire que les temps sont mûrs. Les Juifs ont bien compris que les gestes rituels de purification, il y en avait marre qu'on nous saturait d'obsession, de pureté, et que ce n'était pas ça la vraie religion. Ils l'ont compris. Et donc, quand Jean-Baptiste propose autre chose, vous vous souvenez, hein, les soldats qui viennent le voir en disant « Que veux-tu qu'on fasse ?» Alors, un bon lévite au temple, ils auraient juste répondu « Va te laver les pieds quand tu fais une faute !» Et Jean-Baptiste ne leur propose pas ça. Jean-Baptiste, il dit « Non, non, convertissez-vous » Ah! Alors, c'est complètement nouveau. Mais c'est bien plus prenant du point de vue existentiel. Et donc voilà, ouais, Jean-Baptiste, c'est un personnage vraiment extraordinaire. Bon, alors j'ai répondu à la question, enfin, j'ai expliqué, mais ça amplifie la question. Qu'est-ce que Jésus vient faire là? Il n'a pas besoin. Bon, évidemment, il n'avait pas besoin de mikvé. Mais a-t-il besoin de se convertir? Donc, vous voyez, ça fait que faire rebondir la question. Hein. En fait, c'est très intéressant parce que ma réponse est simple. Hein. Enfin, la réponse, c'est pas la mienne, mais la réponse est simple. Il vient, Jésus va au baptême, enfin va au rituel de Jean-Baptiste, non pas pour que lui convertisse son existence, mais parce qu'il va rejoindre là les gens qui peuvent être rejoints. Celui qui ne veut pas convertir sa vie ne peut pas être rejoint par personne, et encore moins par le Christ. Waouh! Ah, ça, c'est une nouvelle, hein. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est ça réforme la religion. C'est-à-dire, non, la religion n'est pas une affaire de rite. La religion n'est pas une affaire de purification, mais de conversion. Convertir sans cesse sa vie, la réorienter. Ce qu'on lisait dans les hymnes christologiques. Il s'agit de tout reconduire à la vocation que de faire de notre vie une louange, une offrande à la présence de Dieu. Voilà, vous voyez, c'est. Donc, voilà, j'ai expliqué en deux mots, hein, ce qu'était le baptême de Jean-Baptiste, mais vous allez voir, il y a des significations très, très amplifiantes maintenant que je vais vous proposer. Tout d'abord, une petite pause avec deux tableaux de Poussin au Louvre. Celui-ci de 1635. Alors, observez bien, il y a plein de trucs rigolos, des trucs étonnants. Je vous laisse 1 minute pour bien observer, pour voir si vous voyez des choses bizarroïdes. On repère assez facilement, hein. Vous avez, allez, je vais vous conduire un peu la méditation sur ce tableau. Vous avez à gauche un groupe de gens bougons. Vous avez trois personnes debout. Qui bougonnent. Ils se tiennent la barbe. Et puis le quatrième à cheval. Tous les autres sont très empressés. Alors ça, c'est bon, c'est factuel. Ils ont tous les âges et toutes les situations existentielles. Il y a des bébés, des tout jeunes, des hommes d'âge mûr, et même un homme assez âgé. Celui qui est derrière, au pied de Jean-Baptiste, celui qui est derrière le premier. Alors, il y a une question qui se pose par rapport à ce tableau. Mais c'est probablement que Jean-Baptiste n'a pas baptisé comme ça. En effet, on nous dit qu'il baptise dans les eaux du Jourdain. Or là, vous voyez, il ne baptise pas dans l'eau, mais comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas un baptême par immersion. Alors, dans ce cas-là, on m'a posé la question à 14 heures. Donc je vous pose la question, ben pourquoi il se déshabille s'il ne plonge pas dans l'eau? Eh bien, c'est précisément pour exprimer une conversion et un changement, une espèce de retournement. Donc on dépouille l'homme ancien, expression qui est également utilisée dans le Nouveau Testament. Alors donc voilà un premier tableau, 1635. On va remonter 5 années avant. Il est plus lumineux. Ah non, ça c'est un détail. Détail, de l'autre côté, on voit des pêcheurs. Bon, on voit le gros mec balèze devant, premier plan. Alors c'est très académique hein, comme peinture. Et puis Jean-Baptiste, bon, voilà. La femme avec son petit, etc. De l'autre côté, le groupe des bougons. Voilà 5 années avant. Bien plus lumineux, des coloris beaucoup moins fortes, mais c'est à peu près la même situation, à quelques détails près, qui sont fort intéressants. Jean-Baptiste fait pareil, il baptise les gens non pas en les plongeant dans l'eau, mais en les baptisant comme on baptise au XVIIe siècle. On voit là aussi tous les âges de la vie, un empressement à se dévêtir. Et puis il n'y a plus que deux ou trois bougons. Regardez, il y a un homme vêtu, deux hommes qui discutent entre eux, entièrement vêtus, l'un drapé de bleu, avec un vieil homme qui discute avec lui. Ils sont plus que deux bougons. Les autres semblent bien participer à la scène. Mais il y a un détail très intéressant, regardez, au loin, Jésus approche. Et bientôt, il se fera appeler par Jean-Baptiste Voici l'agneau de Dieu. Expression quand même bien étrange que j'ai déjà expliquée la dernière fois. Donc voilà, vous voyez ces deux petits tableaux ravissants qu'on trouve au Louvre. Alors, voilà le détail. Alors, il y a beaucoup plus dans le baptême du Christ, il y a beaucoup plus que ce premier point que je viens de vous donner, à savoir le Christ vient non pas recevoir le baptême, mais il vient rejoindre ceux qui peuvent être rejoints. Voilà, ceux qui peuvent être rejoints, c'est ceux qui veulent convertir l'existence concrète. Ensuite, il ira rejoindre tout homme dans sa condition humaine. Il ira rejoindre les malades, les souffrants, les gens heureux. Il ira participer nos joies, nos peines, jusqu'à la mort. Donc il rejoint tout de l'homme, de manière à tout réorienter vers notre vocation. OK. Ceci dit, dans le baptême, il y a quatre aspects complètement géniaux que voici. Et qui sont extraordinairement significatifs. Alors, je vais vous les exposer les uns derrière les autres. Le Jourdain, la colombe, le ciel qui s'ouvre et la Trinité. La Trinité, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Le Jourdain lui-même est un signe du salut. Et pourquoi? Parce que Jean-Baptiste s'est mis loin des villages, mais il va au Jourdain. Or, le Jourdain est, pour les Juifs, la frontière de la terre promise. C'est ce par quoi ils sont entrés du temps de Josué en terre promise. Quand Jésus vient se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, il dit: Je suis celui par qui vous accédez en terre promise. La terre promise, ça n'est plus la Palestine. La terre promise, c'est moi. La terre promise, c'est que Dieu s'approche. La terre promise, c'est d'être dans la proximité de Dieu. Voilà ce qu'il vient dire. Ah, c'est quand même assez extraordinaire, hein. Il vient annoncer une nouvelle terre promise. Et Jésus, en se faisant baptiser par Jean, confirme cette évidence que la terre promise n'est plus une terre. Mais quelle est la terre promise? Elle est Dieu lui-même. Alors là, je vous montre une fresque de Saint-Côme et Damien à Rome. Alors regardez le trait vert en bas, c'est le Jourdain, c'est marqué dessus. Et alors le vert, c'est les bords du Jourdain, et vous avez une petite ligne bleue avec des espèces de petites vaguelettes. Vous voyez, je vous ai fait un gros plan, et c'est même marqué dessus, Jordanès. C'est le Jourdain. Et on voit bien donc que le passage d'une rive à l'autre, l'autre rive, c'est quoi? C'est le Christ lui-même. Voilà, la terre promise, c'est Jésus. Les Jésus en tant que pantocrator, on le représentait comme ça à l'époque, hein, et non pas les pantocrators que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc voilà le... Deuxième chose, la colombe. Ah ben, je vous mets un indice là, hein, bien sûr. Pourquoi la colombe le jour du baptême? Alors c'est plus que le Saint-Esprit, mais vous allez voir, c'est aussi le Saint-Esprit. La colombe confirme cette idée de la terre promise, mais en fait c'est une citation de Noé. Ah bon? Vous savez, de Noé et l'arche de Noé, histoire fabuleuse que tout le monde connaît, quand le corbeau lâché par Noé ne revient pas, de deux choses l'une, soit il est mort d'épuisement, soit il a trouvé quelque part une terre ferme, c'est-à-dire une terre promise. Alors il envoie une colombe qui tarde à revenir. Et donc on a peur. Elle est peut-être morte d'épuisement. Mais finalement elle revient et elle porte un rameau d'olivier. Vous connaissez cette histoire, bien sûr. Donc il y a la vie quelque part. C'est le salut. Eh bien voilà ce que veut dire le baptême du Christ. Il y a la vie quelque part. C'est le salut. La colombe au-dessus du Christ sortant des eaux, c'est la même chose. Il y a une terre des vivants. C'est lui. Voilà, vous voyez comme ces images sont de vraies leçons. Alors évidemment, il faut avoir la culture biblique. Il y a deux autres choses. Le ciel s'ouvre, c'est explicite hein, dans les récits, dans les trois récits que nous avons du baptême du Christ, parce que saint Marc est hyper sobre. Et donc, dans les trois récits que nous avons, on nous raconte que le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire, le ciel qui s'ouvre? Ça veut dire que le ciel était fermé. Eh bien, ça, on l'a vu, évidemment, dans l'Ancien Testament. Les prophètes pleurent en disant, c'était le temps où il n'y avait plus de prophètes. La lampe du temple s'était éteinte. Elle n'était même plus entretenue. La foi a disparu. Ce sont des expressions que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Le ciel s'est fermé. La religion s'est éteinte. Elle est sclérosée. Trop de distance entre Dieu et la création. Nous avons fait de Dieu une entité parfaitement étrangère. Ah, le ciel est distant, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire que notre Père qui est aux cieux, il est pas dans le ciel, mais ça veut dire qu'il est distant, il est insaisissable. Et donc le ciel est fermé en quelque sorte pour des raisons métaphysiques et pour des raisons d'affadissement. Or, le jour du baptême, on nous dit le ciel s'ouvre. Et Giotto, vous voyez, on croit presque, quand on voit ces fresques de Giotto, on croit presque que c'est la peinture qui est abîmée. Ah non, non, c'est lui qui a peint comme ça. C'est-à-dire, lui, il dit le ciel se déchire, Giotto. Et donc, il y va, quoi. Il déchire le ciel et le ciel s'ouvre. Ça veut donc dire que dorénavant, entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, il y a une ouverture, une communication possible. Il y a une connaissance possible. Alors ça fait allusion, vous savez, à un vieux texte du livre de la Genèse, au chapitre 28, où on a l'histoire de Jacob. Alors vous connaissez l'histoire de Jacob, c'est un patriarche qui est obligé de fuir la colère de son frère Ésaü, parce qu'il lui a volé son droit d'aînesse. Bon, alors le frangin Ésaü est très en colère. Et donc, il fuit. Et il va revenir quelques années plus tard. Hein. Mais dans son voyage de fuite, il y a un moment où il est fatigué, il s'allonge, il dort. Et là, il a un songe. Et il voit une échelle entre le ciel et la terre, avec des anges qui montent et qui descendent. C'est chapitre 28 de la Genèse. C'est donc, interprète Jacob, c'est donc que le ciel s'ouvre encore, que Dieu se donne encore à connaître. Et donc Jacob se réveille et dit, en vérité, deux expressions fantastiques, en vérité, c'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. De quoi parle-t-il quand il dit c'est la porte du ciel? Il parle du lieu où il est. Mais quand le ciel s'ouvre autour du Christ, on ne parle plus du lieu, on parle de lui. Il est la porte du ciel. Il est la maison de Dieu. Voilà la raison pour laquelle les évangélistes disent le ciel s'ouvre. Donc vous voyez, le Jourdain, la colombe, le ciel se déchire. Alors la colombe maintenant, eh ben, c'est évidemment une citation de la Trinité. Le Père qui se fait entendre, dont la voix se fait entendre, le Fils qui vient rejoindre ceux qui peuvent être rejoints, et la colombe de l'Esprit-Saint, que vous voyez ici, sur une mosaïque en Grèce, mais qu'on voit partout. Alors ici, sur cette mosaïque, mais je vous l'ai déjà dit ça, on montre la voix du Père, c'est très difficile de peindre ou de représenter la voix du Père. Alors on montre très souvent une main avec un doigt ou deux doigts dressés. Alors c'est les deux doigts dressés. C'est soit un signe de bénédiction, soit un signe de je suis en train de parler. Vous voyez, un signe impératif, je parle. Et donc là, vous avez la main, vous voyez, qui sort du ciel là-haut, je parle. Une colombe qui descend sur Jésus. Et donc vous avez la Trinité. Donc voilà le baptême du Christ, vous voyez, c'est tout ça. Donc c'est extraordinaire. Hein. Alors comment voulez-vous que les prêtres se débrouillent les jours qui suivent Noël? Et qu'on est à la fête du baptême du Christ pour faire une homélie avec tant de choses, et c'est pas possible. Il y a trop de choses dans le baptême du Christ. Donc voilà, ça c'était le baptême du Christ. C'est super intéressant. Alors, continuons avec les tentations du Christ. Autre grand morceau de l'Évangile. Et également qui suivent, alors cette fois-ci qui commencent une autre période de l'année liturgique, hein, qui commence le carême. Donc vous, c'est le premier dimanche de carême. Enfin, maintenant, c'était il y a longtemps parce qu'on a presque fini le carême. Mais enfin, vous vous souvenez. Le Christ fut tenté, mais alors là aussi, ça pose plein de questions. On nous dit le baptême du Christ. Bah, il n'est pas baptisé, il n'a pas besoin d'être baptisé. On nous parle des tentations du Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir ce que ça veut dire. Avait-il, en effet, le Christ, quelque appétence au mal, comme nous? Vous savez, une appétence, c'est une sorte de quête mêlée de plaisir, de calcul. En nous, ça relève beaucoup de l'involontaire, hein. C'est comme ça. On est tenté. On est tenté par la fortune, on est tenté par la gloire, on est tenté, je sais pas, par la gourmandise, enfin, etc. Mais on peut, toutefois, exciter cette appétence naturelle, l'amplifier jusqu'à ce qu'elle nous abîme, ou au contraire la pondérer, la tempérer, notamment en la sublimant par des satisfactions de l'existence qui ne sont pas empoisonnantes. Donc voilà ce que c'est que la tentation, hein. Donc non, l'argent n'est pas une tentation, mais oui, l'argent est une tentation. Non, la nourriture n'est pas une tentation, mais oui, la nourriture est une tentation. Donc voilà, vous avez bien compris, hein. Ça veut dire non, l'argent comme tel n'est pas un mal, mais il faut bien éviter d'y être excité, d'amplifier, il faut pondérer la force de l'argent. Etc. Voilà, vous comprenez bien ce qu'est la tentation. On peut aussi et plus facilement donc tempérer, contester cette appétence au mal en développant et en entretenant l'appétence au bien, qui tout aussi certainement habite en nous. Voilà, ça vous verrez probablement ça dans le cours d'anthropologie, hein. Il est plus les catholiques même nous croyons. Alors il y a une petite différence catholique, luthérien, calviniste. Le calviniste ne dirait pas ce que je vais dire là tout de suite. Mais nous, nous croyons que l'homme naturellement est habité par le désir du bien. Que ça n'est pas pollué par le péché, ni par l'appétence au mal. Il y a en nous un désir du bien. Il y a une appétence au bien, on peut dire ça. Et donc, le Christ, pour revenir à notre question, le Christ n'a pas de goût pour le mal, pour le plaisir, oui. Bien sûr, mais pas pour le mal. Voilà. Et dire ça et rappeler ça, c'est aussi parler d'une manière optimiste de l'homme. Voilà, c'est bien recadrer les choses, hein, ne pas faire de tout plaisir un péché, etc. Et parce que combien de prêtres pervers ont prêché dans ce sens-là, hein, au 18e, 19e siècle, mais pas au Moyen Âge, hein, contrairement à ce qu'on prétend. Beaucoup de gens disent c'est des théories médiévales. Non, 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 non. C'est des théories enfin, assez récentes. C'est des théories modernes. Et que tout est péché, tout plaisir est pervers. Mais non, pas du tout. Toute appétence n'est pas pervers, bien sûr que non. Il y a en nous des appétences au bien. Bon, voilà, vous avez bien compris. Et donc, le Christ, bien sûr, a connu les plaisirs de l'existence. D'ailleurs, on lui reproche. C'est un glouton, il va manger avec les pharisiens. Il boit et il mange avec les pécheurs. Allez, on lui reproche. Et quand il jeûne, on lui reproche aussi. Bref. Et donc, on peut dire que l'homme a un déplaisir, parfois même un naturel dégoût pour le mal, pour l'injustice, pour la violence. Et ça habite l'homme naturellement tout autant que les appétences que nous appellerons bientôt des péchés. Être pleinement homme, ça ne veut pas dire faire et goûter indifféremment le mal ou le bien. Nous voyons bien qu'il y a quelque chose de destructeur pour l'homme quand il fait ou quand il subit le mal. Et ça, le cœur de l'homme, naturellement, le sait. C'était ma prédication de dimanche dernier, hein, avec Dieu a semé en nous sa loi. Ah, c'est bien, je crois, hein, fondamentalement, c'est bien la paix et le bien et le beau qui sont la nature de l'homme. Et l'homme le sait. Il sait quand il est victime de violence que c'est injuste. Mais qui lui a donné cette idée? C'est pas en regardant le monde, hein. C'est parce que c'est dans son cœur. C'est dans son cœur, dans sa tête, dans sa mémoire enfouie. Bref. Donc, si le Christ a été au désert pour y affronter les tentations, c'est pour nous dire que ce combat n'est pas vain. Non, dit-il, Satan ne l'emporte pas. Non, le mal n'est pas finalement toujours vainqueur. Voilà, alors c'est ça le cœur, évidemment, de l'espérance chrétienne qui est annoncée par ce récit des trois tentations du Christ. En plus, il y a une très belle leçon de philosophie et de psychologie. On va voir ça. Les trois tentations qu'il connaît sont comme des archétypes de toutes les tentations que nous pouvons connaître, d'où la finale que je vous mets ici, la finale dans l'évangile de Luc, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation. Toutes les formes de tentation. Le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Or, il n'en a connu que trois. Eh bien, les évangélistes nous disent, enfin Luc nous dit, eh bien, il y a là la récapitulation de toute forme de tentation. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, comme quand on parle des péchés capitaux. Quand on parle des péchés capitaux, ça ne veut pas dire que c'est les péchés les plus graves. Ça veut dire que c'est des têtes de chapitre. Derrière l'orgueil, il faut en aligner plein d'autres. Et c'est pour ça qu'on dit que la gourmandise est un péché capital. Personne ne vous dira que la gourmandise est un péché. C'est une appétence naturelle du plaisir. Mais sous la gourmandise, vous avez quoi? Ah ben, vous avez la saturation des plaisirs, vous avez la boulimie, vous avez le consumérisme, etc. Et ça vous rend malade. Donc voilà. Hein, c'est... Et ici, Luc nous dit, avec ces trois formes de tentation, toutes les formes de tentation y sont plus ou moins inscrites. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bon, alors allons-y. Ça met en appétit, ça, cette introduction. Alors lisons ce texte tout entier, mais après je vous l'expliquerai. Donc je vous lis ce qu'il y a juste avant. Jésus rempli d'Esprit Saint quitta les bords du Jourdain. Donc vous voyez, ça, c'est très lié. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Et voilà le texte que vous avez sur l'écran. Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et d'une, la seconde. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répond, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. C'est la seconde. Voilà la troisième. Puis le diable conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Voilà. Donc, ben, c'est un texte que vous connaissez, bien sûr. Alors, reprenons rapidement, hein, parce que de fait, c'est des choses que nous connaissons. Mais je voudrais juste vous conduire à un schéma, disons, d'interprétation contemporain. La première tentation, c'est facile, hein. La faim. Toute naturelle, c'est naturel d'avoir faim, c'est même salutaire, parce que nous avons besoin de manger, donc la faim nous donne de l'appétit, et avec l'appétit nous mangeons. Elle n'est ni un bien ni un mal, ni une tentation. Et donc, ces scénarios sont donc construits pour nous faire comprendre beaucoup plus large que la fin. C'est en fait sous cette catégorie fin et ayant épuisé toute forme de tentation. Et donc, sous le mot fin, sous le pain, si vous voulez, il y a d'autres choses, bien sûr, hein. C'est le désir de satiété, qui lui est un mal. Le gavage, le gaspillage, le consumérisme. Vous avez remarqué le si tu es le fils de Dieu. La tentation se présente sous forme de défiance, de mise en cause de ce que Jésus est fondamentalement. Or, cette tentation remet en cause ce que nous sommes fondamentalement. Non, nous ne sommes pas faits pour surconsommer. Non, nous ne sommes pas faits pour saturer nos existences de plaisir. Il y a quelque chose, il y a un dévoiement de notre humanité dans le consumérisme. Et donc, c'est bien ça, hein, dont il est question. Ce n'est pas évidemment de la faim ni de la gourmandise. Vous avez remarqué aussi, hein, la seule défense de Jésus, l'écriture. Voilà. On ne se nourrit pas seulement que de pain. Seconde tentation, elle est bien plus étrange, hein. Pourquoi elle est plus étrange? Parce que Satan dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Ce qui est incroyable, c'est que Jésus ne conteste pas ça. Et il aurait pu dire, mais penses-tu? Pas du tout. Les pouvoirs de ce monde ne sont pas en ta main. Il aurait pu protester. Ça nous aurait libérés, hein, d'une sacrée charge et d'un sacré doute. Or, Jésus ne conteste pas ça. C'est terrifiant, hein, de penser ça. Donc, tout pouvoir humain est satanique? Waouh! Voyez la question que ça pose, hein. Alors, non, évidemment, il faut répondre non, mais c'est certainement le domaine où il est pour nous le plus facile de devenir satanique. Le pouvoir de devenir pervers, dominateur, calculateur, menteur, pervers, c'est certainement le domaine du pouvoir. Ça, c'est génial, hein. Alors là, la psychologie moderne, hein, ne retirera pas une virgule de ce que je viens de dire. C'est impressionnant, hein, quand même. On risque toujours de déraper, voyez, vers le désir de soumettre, vers la toute-puissance, ou vers tout simplement le petit plaisir mesquin de montrer quelques supériorités. Voyez, etc. Cette tentation va de ce qu'il y a de plus total, les tyrans de notre monde, jusqu'au plus petit galon. Qui rend ridicule celui qui en use avec orgueil ou prétention. Voilà, donc vous voyez, oulala, le pouvoir, c'est évidemment un très grand danger. Et donc la réponse du Christ également sur l'Écriture. Troisième tentation, ça se passe en haut du temple. Eh bien ça a une signification. Si ça se passe en haut du temple, c'est que c'est une tentation qui a rapport à notre lien, à notre manière d'être lié à Dieu. Et qu'est-ce que Satan propose ici? Il propose tout simplement à Jésus ce qu'on pourrait appeler l'esbrouffe. Ouais, jette-toi en bas et des anges viendront à ton secours. Mais ce qu'il faut appeler un rapport magique à la religion. C'est ce qu'on peut appeler aussi, si vous voulez, du haripotérisme. Harry Potter, un petit coup de baguette et je m'en sors. Or, Dieu n'est pas ça, mais c'est une des tentations constantes de tous les religieux et de tout ce qui est périphérique aux religions. Pas forcément les religions établies, mais tout le désir religieux de notre humanité, tout le désir religieux que tout homme porte en lui, peut être perverti en tentation d'un comportement magique. Or, un comportement magique, c'est quoi? C'est vouloir maîtriser les forces qui pourtant nous dépassent. C'est renverser, si vous voulez, la naturelle transcendance. C'est de dire, je peux agir sur ses lois éternelles. Je peux être tout-puissant dans un rapport magique. Et on demande à Dieu de l'être, on demande à Dieu d'être à notre égard magique, magicien, comme Harry Potter. Alors vous avez remarqué que dans cette tentation, Satan utilise deux fois l'Écriture sainte. Et Jésus se contente de répondre, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Pourquoi? Il n'était pas à l'épreuve dans les deux précédentes? Ah, très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu mets à l'épreuve dans cette tentation, c'est ton rapport à Dieu. Voilà, c'est ça le propre de cette troisième tentation, c'est notre rapport à Dieu. Voilà, donc vous voyez, une tentation extraordinaire, hein. Une sorte de déviation à l'égard de Dieu. Nous voulons utiliser Dieu, Dieu à notre service, notre Père qui es aux cieux, que ma volonté soit faite. Voilà, obéis-moi. Alors on a des prières, des formes de prières de l'ordre de la magie. Et comme si on pouvait utiliser Dieu comme une espèce de toute-puissance, toute poutinienne ou Harry Potterienne. Tentation extraordinaire, hein, évidemment. Non, Dieu n'est pas le bureau des réclamations. C'est pas ça la prière. Et de même, la tentation qui consiste à nous perdre dans des illusions, hein, sur Dieu et sur nous-mêmes. Ouais, c'est quand nous, voilà, c'est un rapport à Dieu qui nous trompe sur nous-mêmes. Nous n'avons pas un Dieu disponible comme ça devant nous. Petit schéma. Pour récapituler les tentations. Avoir, pouvoir et être. Car la troisième tentation porte aussi sur l'être que je suis. Et c'est parce que je mens sur l'être que je suis que je veux faire de Dieu une espèce de caricature de toute puissance. Contre quoi le Christ a proposé, mais ça vous le connaissez par cœur, le jeûne, l'aumône et la prière. Et pourquoi a-t-il proposé ça? Eh bien, parce que le jeûne, qu'on pourrait appeler aussi la frugalité, la sobriété, la vie simple, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'avoir tout ça. L'aumône, qui est une attention à autrui et non pas une domination. On se rend vulnérable à autrui, au lieu de lui faire sentir sa vulnérabilité. C'est la pitié, si vous voulez. La pitié plus que la domination. C'est le soin, l'attention, la bienveillance, le partage. Et c'est évidemment un antidote extraordinaire à la tentation de dominer. Et contre la mentalité magique d'un Dieu à notre ordre, à notre disposition, la prière qui, dont le cœur de la prière, c'est la louange et la gratitude, pas la prière de demande. Bien qu'on verra la prochaine fois que le Notre Père est tout entier une prière de demande. Ah, mais il faut purifier nos prières de demande, bien sûr. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc voilà, vous voyez, c'est les tentations, c'est un texte absolument fabuleux. Il nous reste un point. Que j'ai intitulé le salut de la matière. On l'a vu dans les épîtres pauliniennes. Et donc, je voudrais finir ce parcours d'aujourd'hui en y incluant la matière comme nous y invitait Saint Paul. Dans le texte de Saint Paul, c'est presque anecdotique. On passe dessus sans bien s'en rendre compte. On se dit, oh, c'est une image. Mais en fait, non, hein. Et on va voir qu'il y a un rapport, dans le salut de la matière, il y a un rapport avec le baptême du Christ. Et les tentations au désert. Et voilà la raison pour laquelle je reviens sur cette affaire du salut de la matière. Alors, avec deux détails. Hein. Le premier point de détail, c'est il vivait avec les bêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vous ai dit que Marc était très peu bavard sur le baptême du Christ. Il est très peu bavard sur les tentations du Christ. Je vous lis entièrement, je vous lis entièrement les tentations du Christ sur saint Marc. Vous allez voir, c'est court. Aussitôt, l'esprit le pousse au désert. Il était dans le désert durant 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, les anges le servaient. Point. C'est tout. Il n'y a pas de tentation. Ah, c'est bizarre. Et pourquoi il nous donne, il ne nous dit pas c'est quoi les tentations? Et il nous donne ce détail incroyable qu'on ne comprend pas. Il vit avec les bêtes sauvages. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi il nous donne ce détail? Alors, il y a deux choses. C'est comme, c'est vrai, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le baptême du Christ. Hein. C'est plein de significations. Alors, c'est ça le problème avec Marc, c'est qu'il est très court, mais du coup, tout compte. Même quand il ne parle pas de quelque chose, ça compte. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, saint Marc, en fait. C'est l'évangile que nous avons cette année dans l'année liturgique, sauf pendant le carême où nous avons abondance de saint Jean. Alors, deux choses. C'est une référence au livre de Daniel, figurez-vous. Et c'est une référence à Genèse chapitre 1. Une seule figure de l'Ancien Testament vit comme ça avec les bêtes. Servi par les bêtes sauvages. Il survit aux bêtes sauvages. C'est Daniel. Daniel dans la fosse aux lions. Alors ça, c'est un petit livre de la Bible qu'on lit très très peu. Daniel est un jeune hébreu exilé et employé à la cour du roi de Babylone. Donc c'est vraiment à l'autre bout, hein. Dans le livre de Daniel, on l'appelle tantôt Balthazar, tantôt Darius. Comme il ne veut pas participer au culte du roi, on le jette dans une fosse aux lions. Or, il apaise les lions qui ne le touchent pas. Quand le roi voit ça, il délivre Daniel, bien sûr, pour lequel il a toujours eu d'ailleurs une secrète grande estime. Et il chante une louange au Dieu de David, au Dieu de Daniel. C'est donc le livre de Daniel qui raconte ça. C'est le même Daniel qui, au chapitre suivant, toujours dans le même livre de l'Ancien Testament, a une vision apocalyptique où quatre animaux abominables cette fois-ci et destructeurs sont vaincus. Allez, dans la fosse, Daniel lui-même apaisait les bêtes sauvages. Et dans sa vision, des quatre bêtes monstrueuses sont vaincues par une étrange figure non décrite qu'on appelle le Fils de l'homme. Ah, seule fois dans l'Ancien Testament. Or, ce titre, le Fils de l'homme, est le seul que Jésus accepte à son propos et qu'il s'attribue à lui-même. Savez-vous combien de fois? 70 fois. Alors que Messie, jamais. Roi, jamais. Donc voyez, quand saint Marc, en un mot, une phrase, nous dit il vivait avec les bêtes, voilà ce que ça veut dire. C'est incroyable, hein? Un faible indice posé là, discrètement par Marc, pourrait donc rappeler que ce Fils de l'homme, au moment où Jésus doit vaincre, non pas quatre bêtes, mais toute forme de tentation. Il vient apaiser, vaincre en nous tout ce qui est ensauvagement, brutalité, destruction, bestiale. Donc voilà, en un mot, eh, c'est fabuleux. Mais il y a une deuxième allusion. C'est évidemment une allusion au livre de la Genèse. Quand les hommes, les animaux se côtoyaient sans aucune animosité. Les hommes étaient végétariens, les animaux aussi d'ailleurs. Situation que le prophète Isaïe reprendra pour décrire les temps futurs où Dieu aura enfin tout réconcilié. C'est chapitre 11 dans Isaïe, je vous le lis parce que c'est absolument magnifique. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère reposera aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble. Un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte. et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson jouera sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Waouh! Vous voyez comme c'est beau, hein? Et dans l'Ésaïe, on nous dit donc que quand la connaissance de Dieu nous habitera, tout le monde sera en paix, le cosmos sera en paix. Voilà, et c'est bien cette connaissance, cette paix qu'établira la connaissance de Dieu par le ministère de Jésus. Jésus, il nous fait sortir de cette inconnaissance. Vous vous souvenez tout à l'heure, le ciel s'ouvre. Dieu n'est plus le lointain, trop lointain. Bon, ben, donc voilà, vous voyez, on trouve également des très belles méditations chez les pères de l'Église concernant tout ce que je viens de vous dire, hein. C'est tout ce que les deux points là, que je viens de vous signaler, c'est dans la patrologie, c'est-à-dire les pères de l'Église, c'est-à-dire, si vous voulez, les 7 premiers siècles d'écriture et de commentaires. Il y a même Tertullien, hein, qui parle, quand il parle de la réconciliation du cosmos, il parle des oiseaux dans le ciel, et il dit, c'est très drôle, alors Tertullien, c'est un auteur, il est mort, on ne sait pas quand il est né, mais il est mort en 220. Et alors, il dit ceci, c'est très rigolo, « Toutes les créatures te prieront. Les bêtes domestiques et les bêtes sauvages fléchissent les genoux, et lorsqu'elles sortent de leur étable ou de leur repaire, elles regardent naturellement vers le ciel, non sans motif, en faisant frémir leur souffle, chacune à sa manière. Quant aux oiseaux, lorsqu'ils s'élèvent, ils se dirigent naturellement vers le ciel, et ils étendent leurs ailes comme nous étendons les mains en forme de croix, et là, ils font entendre ce qui apparaît comme une prière. » Voilà, ça c'est la manière dont Tertullien, voyez, essaye de traduire cette réconciliation du cosmos. Ce à quoi je faisais allusion dans les épîtres, dans les poèmes, les hymnes christologiques chez saint Paul. Donc voilà ce que je voulais vous signaler, c'est assez rigolo. J'en ai un second point pour terminer ce cours. Ah, je vais même finir aujourd'hui avec un peu d'avance, c'est formidable. Un second point, alors très très curieux, hein, très curieux. J'ai mis longtemps à trouver une explication, et finalement, il faut aller chez les orthodoxes pour trouver une explication. C'est à propos du baptême du Christ. Il y a une interprétation que je ne vous ai pas encore délivrée, et qui est celle des Byzantins, et qui est probablement la plus exacte, et qui touche au cosmos, comme ce qu'on vient de voir. Ah, c'est singularisé, c'est comme mis en image par un rituel qu'on trouve dans l'Église d'Orient, l'Église, disons, russe, les bains de glace. Ah, Kézako! Celui-ci est une interprétation parfaitement admise, donc, dans toute l'Église d'Orient, mais inconnue chez nous. Il y a une phrase dans l'Évangile de Matthieu qui est très étrange. Je vous relis le texte en Matthieu, chapitre 2, versets 13 et 17. Je ne vais pas tout vous lire. Alors parut Jésus. Rien que cette expression est très étrange. Alors parut Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean. On dirait le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Il paraît, et là, au fond, sur l'autre rive, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher en disant... Mais il a compris, Jean, en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu vers moi? Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions toute justice. Alors Jean le laissa faire. Et voyez ce détail, l'acteur du baptême, donc qui n'est pas un baptême, ça n'est pas Jean-Baptiste. Ça n'est pas l'immersion dans le Jourdain, signe de conversion. L'acteur du baptême, c'est Jésus. Laisse faire pour le moment, dit-il à Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste le laisse faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se plonge dans le Jourdain. Et lors du baptême du Christ, j'ai dit que le Christ n'avait pas besoin d'être purifié, pas besoin d'être converti. Jean ne s'y trompe pas. Jésus lui dit, laisse faire. Jean le laisse faire. C'est Jésus qui est acteur. Et donc, qu'est-ce qu'il vient faire, Jésus? C'est lui qui vient baptiser le cosmos. C'est lui qui vient réorienter le cosmos. Et regardez sur ces fresques et sur ces icônes byzantines, vous voyez dans le Jourdain des espèces de petites figures, là, des allégories. Eh bien, c'est le cosmos qui se réjouit de cette visite du Christ. Et donc, voici une fresque du 15e siècle, du 14e, et voilà le détail. On a ces deux petites figures bizarres dans le Jourdain. L'une figure le cosmos et l'autre probablement figure le Jourdain lui-même. L'Occident ne l'ignore pas, hein, cette tradition, mais on l'a oubliée. Voici par exemple une miniature qu'on trouve en Allemagne, et c'est la même idée. Regardez, les poissons dansent de joie. Le ciel étoilé se réjouit. Le cosmos reçoit le Christ vivant. Et c'est lui donc qui est baptisé par ce bain de Jésus. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est une interprétation byzantine que je vous donne, hein. Je vous montre une icône, voilà le détail. Et je vous montre une icône contemporaine qui est absolument extraordinaire et très émouvante du baptême du Christ. Alors, vous voyez, on voit la turbulence, le bouillonnement. L'exultation du cosmos, et par vague, par un soulèvement du cosmos qui se réjouit d'avoir enfin la visite du Très-Haut. Et cette icône est touchante également parce qu'elle est de Ivanka Denchuk, qui est une iconographe ukrainienne, figurez-vous. Elle travaille à Lviv. Et j'étais assez intéressé par sa production. Elle fait des icônes contemporaines étonnantes, étonnantes de créativité. Et pour une Byzantine, les Byzantins sont tout en art, sauf créatif. Et elle ose des trucs. Et toute sa collection, allez voir sur Internet, hein, Ivanka Demchuk, Demchuk. Et on a pris contact avec elle parce que j'avais fait il y a 3-4 ans, pendant le Covid, j'avais fait un exposé sur elle pour notre paroisse. Et donc on avait pris contact avec elle, évidemment, elle était très, très impressionnée. Et pendant la guerre d'Ukraine, on a demandé des nouvelles. Et bien elle est toujours là. Et donc voilà une très belle icône, vous voyez, qui montre cette espèce de chahut, de turbulence, de tourbillonnement du cosmos qui exulte littéralement. Lors de ce baptême. Alors, je parlais des bains de l'Épiphanie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est ça. C'est très étrange. C'est une tradition byzantine, slave plus exactement, parce que tout le monde byzantin ne pratique pas ce rite. Le jour de l'Épiphanie, 10 jours après Noël, donc c'est le baptême du Christ pour nous, les Russes se plonge dans l'eau pour s'y sanctifier, pour participer, pour profiter de cette sanctification cosmique qui a commencé par les eaux le jour du baptême du Christ. C'est dingue comme idée, c'est complètement dingue. Alors c'est génial parce que en janvier en Russie, bah, il peut faire moins 15, hein, moins 20. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On découpe sur les fleuves, sur les lacs, on découpe en forme de croix une ouverture. On appelle ça le Jourdain, figurez-vous. Et les orthodoxes viennent en grande pompe le jour de l'inauguration, avec le patriarche en tête, et bénir cette fosse. Et pendant 3 jours, jour et nuit, les gens défilent dans ce Jourdain pour participer aux forces cosmiques réordonnées lors du baptême du Christ. C'est complètement génial comme histoire, hein. Alors voilà, il peut faire. C'est un peu de l'héroïsme, hein. Et vous savez que même Poutine l'a fait parce qu'il essaye par tous les moyens de montrer combien c'est un vrai Russe, lui. Alors c'est évidemment un peu une épreuve, hein. Il fait quand même moins 15, moins 20 dehors. Et il paraît que c'est faisable. Alors, c'est sûr que c'est régénérant. Ça, là-dessus, il n'y a pas à se tromper. Et donc, voilà une autre, pour finir, hein, une autre image d'un iconographe contemporain qui, lui aussi, fait de belles choses en Ukraine. Alors, lui, il travaille sur des matériaux de récupération, des matériaux déchus. Et là, pour justement signifier la restauration de toute chose, de la matière notamment, hein. Et là, par exemple, il vient de finir une série sur des icônes peintes sur des caisses de munitions. Et en Ukraine, c'est quand même quelque chose, hein. Et voilà, c'est avec cette belle image du baptême du Christ que j'en ai fini. Et j'ai un peu d'avance, ça nous donne du temps, si vous voulez, hein, pour poser des questions, si vous n'êtes pas trop épuisé. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, comme toujours, quoi. Voilà. À vous la parole, si vous la voulez.
Oui, j'avais une question, c'est que en Matthieu 3, 14, Jean il dit à Jésus, c'est moi qui a besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. Est-ce que Jean aussi, il avait besoin de d'être baptisé ou il était normalement sans péché?
Non, non, Jean avait besoin, comme les autres, hein, de réorienter sa vie. Et lui, il a décidé, donc, un beau jour, de la réorienter. Alors, vraisemblablement, alors tous les exégètes ne sont pas d'accord là-dessus, il a été pendant un temps chez les Esséniens. Les Esséniens, c'était une sorte de communauté monastique qui passait leur temps, comme exercice spirituel, à réécrire, c'est-à-dire à calligraphier. Les prophètes, donc Isaïe, etc., ils recopiaient à la main, évidemment à l'époque, hein, ils recopiaient sur des parchemins l'écriture. C'était une forme de vie ascétique et il semble que Jean-Baptiste ait fait partie des Esséniens et c'est parce qu'on le suppose à cause de ces rites du Mikvé qu'il vient réutiliser, mais lui, c'est carrément dans les eaux vives du Jourdain. Voilà. Alors qu'eux, c'était dans leur communauté, et puis les familles pieuses, c'était même, ils avaient des piscines, des mikvés chez eux. Alors pour répondre à la question, oui, Jean-Baptiste a déjà décidé de changer de vie. Vous savez, dans l'Évangile, on nous dit, il est dans le désert, vêtu d'un vêtement de peau, et il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Donc c'est une vie vraiment ascétique, hein. Donc c'est une vie de conversion.
Et Jésus, lui, en allant au désert, c'est un point de vue historique, est-ce qu'il est possible qu'il ait passé chez les Esséniens?
C'est possible. Ouais, ça, c'est possible, ouais. Certains le disent.
Merci.
Voilà. D'autres questions? Ça vous a fait rire, ces bains de glace? C'est rigolo quand même, hein. Dis donc, on devrait instaurer ça. On devrait instaurer ça dans l'église d'Occident. Ce serait rigolo. Là, ça vous remet en forme, c'est sûr, hein.
Les Niçois le font au jour de l'an, mais c'est à Nice.
Ouais, c'est bon. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, c'est la dernière. On finira en beauté, on finira avec le Notre Père. C'est plus facile quand même, hein. Ce sera une séance assez facile et on reviendra un petit peu à l'iconologie. Aujourd'hui, on n'en a pas fait beaucoup quand même. Bon, ben voilà, bonne nuit et à bientôt. Ciao,
Merci beaucoup.
Merci
Merci.
beaucoup. Merci
Merci
beaucoup.
beaucoup.
Merci.
Merci, bonsoir.
Bonsoir à
Bonsoir.
tous.
Merci, bonsoir.
Merci, bonsoir.
À bientôt.
Bientôt. suite.